Bonjour à tous, heureux de vous voir ce matin. Malgré la chaleur, nous voulons célébrer ensemble le Seigneur et aussi maintenant entendre sa parole. Avant d'ouvrir la parole de Dieu, je voudrais vous adresser les salutations de l'église de Avallon. Donc j'étais en Bourgogne la semaine dernière, invité par une petite église où ils sont à peu près une trentaine. Donc sans pasteur, alors s'il y a un pasteur à la retraite qui fait de son mieux, il est âgé, mais voilà, une petite église qui est bien vivante et avec ses défis aussi. Mais voilà, il fait meilleur là-bas. Bourgogne, c'est très vert, donc je me suis dit je vais rester là-bas, mais bon, il y a rien, c'est la diagonale du vide. Donc mais voilà, en ce que vous avez les salutations des frères et sœurs là-bas, donc je leur ai vendu aussi notre région, donc peut-être qu'ils viendront. Peut-être, du coup, avant d'ouvrir la parole de Dieu, vous rappeler un peu, voilà, on est cet été et on va terminer dans les deux prochains dimanches sur une série sur les paraboles de Jésus. La semaine prochaine, on aura une immersion dans la parole sur un autre sujet, donc qui est différent des paraboles, et puis on terminera par une dernière parabole fin août, avant d'entamer une autre thématique sur les deux années qui arrivent et que je vous présenterai, une thématique en tout cas que Dieu m'a mis à cœur, et je pense qu'il sera bon pour l'Église. Cette avant-dernière en tout cas parabole, je l'ai intitulée « Le trésor qui vaut toute une vie ». C'est une parole de Dieu ici qui est un rappel de Jésus. Et j'ai commencé par cette histoire. En 2013, il y a un couple d'Américains, de Californiens, qui va se promener avec son chien sur son terrain. Ils ont un jardin. Et puis, ils ont quelque part un peu une sorte de clairière. Et ils vont se promener sur ce chemin qu'ils empruntent depuis des années pour balader leur chien. Et ce jour-là, le mari remarque un morceau de métal rouillé qui dépasse de la terre. Au pied d'un vieil arbre, et avec un simple bâton, il va commencer à gratter, et il va déterrer une boîte de conserve complètement rouillée, et en l'ouvrant, il va découvrir des pièces d'or du 19e siècle. Il continue de creuser, il va trouver 8 boîtes au total, plus de 1400 pièces d'or, d'une valeur estimée de plus de 10 millions de dollars. Elle est rentable, hein, sa sortie avec le chien. Et pendant des années, ce couple était passé exactement au même endroit, sans savoir qu'une fortune était cachée sous leurs pieds. Mais le jour où ils ont découvert ce trésor, quelque chose a changé. Et ce n'est pas le trésor qui venait d'apparaître, il était déjà là, c'est leur regard sur ce trésor qui avait changé. Ils ont su qu'il y avait quelque chose de précieux, ils ont compris sa valeur et ils ont agi. Et ce matin, c'est exactement la même réalité que Jésus veut nous faire comprendre dans le passage que nous allons lire, et je vous invite à prendre vos Bibles, dans Matthieu chapitre 13, versets 44 à 46. Alors ce matin, en fait, il n'y a pas une parabole, il y en a deux, mais deux qui sont liées ensemble, deux petites paraboles que Jésus va employer pour parler de la valeur du royaume des cieux. Matthieu chapitre 13, versets 44 à 46. Vous pouvez aussi prendre vos Bibles, vous aurez le contexte avant ou après, que j'aborderai pas là ce matin, mais pourrez du coup y voir plus clair. Le royaume des cieux ressemble à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Lorsqu'il a trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Amen. Merci Seigneur encore mon Dieu pour ta parole ce matin. Bien Saint-Esprit encore mon Dieu, nous édifier, nous parler, nous faire grandir en toi, nous rendre plus matures. Ou nous faire découvrir encore une facette de qui tu es, pour que nous puissions, Jésus, nous approcher de toi avec confiance, avec persévérance, mon Dieu, avec fidélité. Amen. Ce matin, Jésus veut nous poser une question très simple à travers cette parabole, et c'est la question qui traverse ces deux paraboles. Est-ce que Jésus, et je nous la pose ce matin, je vous la pose, est-ce que Jésus est toujours ton trésor, ou est-ce qu'il est juste devenu une habitude ? Vous allez tous me répondre « oui, c'est mon trésor ». Réfléchissez bien, parce qu'on peut, au fil du temps, faire en sorte que Jésus devienne une habitude plus qu'un trésor. En général, ceux qui gardent ce cœur de trésor, c'est ceux qui s'approchent de Dieu, et on voit dans leur attitude qu'ils ont découvert le trésor dont parle cette parabole. Mais nous, chrétiens, quelquefois, qui sommes là, qui connaissons Dieu depuis longtemps, on peut avoir perdu ce côté trésor qu'est le royaume de Dieu qu'est Jésus. Et ce matin, Jésus nous pose cette question. C'est pas pour rien qu'il emploie une parabole. C'est que du coup, dans la vie chrétienne, ce n'est pas juste une vie tranquille, d'habitude. La foi chrétienne est un trésor et demeure un trésor. C'est le premier point, c'est mon premier point. Tu peux le mettre peut-être, Audrey. Le royaume de Dieu est un trésor d'une valeur incomparable. Cœur de cette parabole, Jésus met en scène deux personnages. Deux personnages au comportement très différent. D'un côté, Jésus parle d'un homme dans un champ. Le texte ne dit pas qu'il cherchait un trésor, cet homme-là. Il tombe sur ce trésor. Il trouve ce trésor. Un peu ce trésor, on peut le dire, lui tombe dessus. Et c'est une belle image un peu de ces moments où Dieu vient se dévoiler à quelqu'un au milieu de sa vie. On connaît des témoignages, peut-être que c'est votre cas. Alors qu'on ne s'y attendait pas du tout, qu'on ne cherchait pas la face du Seigneur, Dieu se révèle à nos cœurs. De l'autre côté, Jésus précise que le deuxième homme, c'est un marchand qui cherche de belles perles, et lui, il est en démarche. Il cherche quelque chose. Il cherche un sens à sa vie, il teste, il compare, et quand Jésus nous rencontre, alors que nous ne le cherchons pas ou qu'il se laisse trouver, peu importe finalement les deux situations. Quelque part, les deux hommes, ils vont avoir le même raisonnement. Ce qu'ils ont trouvé dépasse tout ce qu'ils possédaient déjà avant. Que nous cherchions pas Dieu, et que Dieu se révèle à nous, ou que nous le cherchions, cela doit montrer quelque chose. À la fin, on voit qu'il y a quelque chose de différent. Cela change notre regard. Ce n'est pas juste quelque chose qui se rajoute à notre vie, cela change tout. Les priorités changent, les choix changent, les rapports changent, le rapport au bien change, le rapport aux autres change, la vie tout simplement change. C'est la vie chrétienne. Alors vous allez me dire, ça on connaît déjà. Ok, mais aujourd'hui, est-ce que aujourd'hui, nous avons gardé cet état d'esprit de trésor qu'est finalement le royaume de Dieu? Jésus ne raconte pas ici ces deux petites histoires simplement pour nous apprendre à être courageux ou à faire des sacrifices. C'est pas le but de ces paraboles. Il veut nous faire comprendre quelque chose sur le royaume de Dieu, c'est un trésor. C'est le texte qui le dit, le royaume de Dieu est semblable à un trésor. Alors je vous pose la question, c'est quoi ce trésor? C'est quoi cette perle? Qu'est-ce qu'elle symbolise dans cette parabole? À quoi Jésus fait référence quand il parle du coup du trésor que cet homme trouve, ou de cette perle? C'est quoi pour nous? Vous avez une idée? C'est le cœur. C'est le cœur? Alors, pas tout à fait.
C'est, pour moi, d'acheter un terrain, c'est de se soucier de ce qu'il y a sur un terrain.
Oui.
Voilà, il y a des problèmes dans le produit, mais par contre, il y a tellement de choses qui sont beaucoup plus précieuses. Et c'est cette perle sur laquelle il va pouvoir se s'appuyer en tout temps, malgré toutes les difficultés qui sont sur ce
terrain. Ouais, tu fais une réponse de politicien, là, Jackie. Tu tournes autour sans me... Pas tout à fait. La réponse, elle est simple. Hein. C'est Jésus. En fait, ce trésor dont Jésus parle lui-même, en fait, il se représente lui-même. Il est ce trésor qui se révèle aux hommes. Ce trésor que les hommes, des fois, ne considèrent pas comme un trésor, mais quand le Saint-Esprit touche la vie de quelqu'un, on considère du coup finalement Dieu complètement autrement. Ce n'est pas une religion, ce trésor ou cette perle, ce n'est pas un code moral. Souvent on pense, dans la société surtout actuelle, hein, qui tombe un peu dans le nationalisme, on veut le code moral chrétien, sans Dieu, juste le code moral. Ce n'est pas ce que Dieu cherche, il cherche du coup ici des cœurs. Et ce trésor du coup veut trouver des cœurs. Le trésor c'est Jésus-Christ lui-même. C'est lui cette perle de cette parabole, c'est lui le trésor que cet homme va trouver. L'apôtre Paul l'avait compris, et il va écrire ceci d'ailleurs aux Colossiens, à l'église de Colosse, « En lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » Jésus ici, frères et sœurs, ne vient pas rajouter une touche de spiritualité à notre vie déjà bien remplie. Il vient être le trésor qui redéfinit toute notre valeur. Et la foi chrétienne, elle commence par la découverte d'un trésor, d'une perle. Ce trésor, c'est quelqu'un. Et nous découvrons quelqu'un, nous découvrons Jésus, nous découvrons le Christ. Nous découvrons du coup à travers le Christ tout ce qui va avec, le pardon, la grâce, la paix, le royaume de Dieu, une espérance qui dépasse cette vie ici-bas. Et lorsque nous découvrons du coup tout ce qui est lié à la personne du Christ, certaines choses que nous considérons auparavant comme indispensables perdent du coup ici toute leur importance. C'est cela, le trésor dont Jésus parle. Il suffit de voir l'apôtre Paul. Avant de rencontrer le Christ, sur le chemin de Damas, Paul, il avait énormément de raisons de placer sa confiance dans sa propre justice, dans ce qu'il est. Il était un responsable religieux hautement placé à Jérusalem. Il avait une réputation, il avait une connaissance de la parole. Ça suffit pas, ça. Il faut rencontrer, c'est une relation que Dieu attend. Et puis il va rencontrer Jésus, cette relation va se créer, c'est Jésus qui vient à sa rencontre. Pour le coup, Paul, c'est le premier exemple de cette parabole, c'est l'homme qui tombe sur ce trésor, alors qu'il ne le cherche pas. Et Paul va écrire ces choses. « Ces choses qui étaient pour moi des gains, ce que je faisais avant, ce que j'étais avant, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » Là, on se dit, bon, ok, ça, je suis d'accord. Et il va aller plus loin. « Je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, à cause de lui. J'ai accepté de tout perdre et je regarde tout ce que j'étais avant comme des ordures. » Afin de gagner le Christ. Le mot grec ici, c'est ordure, fumier. C'est un mot vulgaire en grec que Paul va employer volontairement. Il est vulgaire, Paul, dans cette lettre. Le terme ici, en français, on l'a essayé de le rendre moins vulgaire. Mais le terme ici, c'est ordure, fumier. Quelque chose ici qu'on n'accorde aucune valeur. Et Paul va dire que toute sa vie d'avant, tout ce qu'il était, ce n'était que des ordures. Comparé à ce qu'il a découvert, le Christ. C'est ce qui doit animer tout chrétien qui a découvert ce trésor. Sinon, nous n'avons pas découvert un trésor, nous n'avons pas découvert le Christ, nous avons juste découvert quelque chose d'intellectuel, mais pas ce trésor que Dieu veut que nous découvrions. Pourquoi Paul est-il capable de considérer comme des ordures des choses qu'il considérait auparavant comme des gains? Parce qu'il a découvert quelque chose de plus précieux, le Christ. Et du coup, il n'a pas simplement appris qu'il devait renoncer, il a découvert que Jésus valait infiniment plus. Et cela nous amène ce matin à une première question que je nous pose. Est-ce que mes frères et sœurs, nous avons réalisé la valeur de Jésus-Christ? Concrètement. Beaucoup de gens, des fois, nous venons à l'église, par habitude, par devoir religieux, mais s'approcher de Jésus par obligation. Quelque part, c'est comme regarder le champ sans jamais voir le trésor qui est dedans. Je viens parce que je me sens obligé de venir, mais je ne vois pas le trésor qui est dedans. Quand tu réalises ce trésor qu'est Jésus, ton culte personnel déjà va changer. Ce n'est plus une corvée, c'est un rendez-vous avec le trésor. Et l'église n'est plus un club social où il y a des relations qui se créent, c'est le rassemblement de ceux qui ont découvert la même perle. Et qui fait que nous soyons là. Et on arrive du coup sur le deuxième point, le royaume de Dieu produit une joie qui change nos priorités. Il y a un détail que je trouve magnifique dans cette parabole, Jésus va dire ceci, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a. Les deux. Hein. Dans sa joie, ce mot est essentiel. Jésus ne dit pas, il vend tout parce qu'il est obligé, où l'homme poussé par la culpabilité, la peur de l'enfer ou le devoir religieux vendit péniblement ses affaires en pleurant. C'est pas ce que Jésus dit. Dans la joie, il va vendre tout. Cet homme ne se dit pas, ces deux hommes ne se disent pas, quelle catastrophe, je vais devoir abandonner tellement de choses. De ce que je suis, de ce que je dans mon caractère, dans mon comportement. Non, il vend tout ce qu'il a et il est heureux de le faire. Je vous pose la question, pourquoi ? Pourquoi il est heureux de vendre tout ce qu'il a?
Il est émerveillé.
Il est émerveillé, alors plus précisément, Lydiane, parce qu'on peut être émerveillé sur plein de choses. Hein. Moi, j'ai été émerveillé par l'éclipse la semaine dernière, j'ai pas vendu tout ce que j'avais pour autant. Hein. Émerveillé, du coup, précisément par quoi? Ouais, tout à fait. Et plus précisément, il vend tout parce qu'il a trouvé quelque chose qui, comme vous dites, qui en vaut plus, mais surtout, il ne se focalise pas sur ce qu'il abandonne. Mais sur ce qu'il gagne. Et ça, c'est le secret de la vie chrétienne. Nous ne vainquons pas, mes frères et sœurs, nous ne vainquons pas nos anciennes manières de vivre ou nos péchés, uniquement en nous répétant « il faut que j'arrête d'aimer ceci, de pratiquer cela, parce que Dieu n'aime pas cela ». Nous les vainquons en découvrant quelque chose de meilleur. C.S. Lewis, théologien pasteur, va dire ceci, « Nous sommes comme un enfant ignorant qui veut continuer à faire des pâtés de boue dans un bidonville parce qu'il ne peut pas imaginer ce que signifie l'offre de vacances à la mer. Et nous sommes trop facilement satisfaits. » Face à nos combats personnels, Dieu nous demande de regarder au trésor qu'il est. C'est la clé. Par nos efforts humains, mes frères et sœurs, et peut-être que vous l'avez déjà découvert, on ne peut pas, ça ne tient pas. C'est uniquement le Christ qui est capable de faire un changement radical dans nos vies, dans nos raisonnements, dans tout cela, à travers le Saint-Esprit, qui est l'organe premier de cette vie chrétienne, qui permet d'ailleurs à ces deux hommes de découvrir ce trésor et cette perle. Parce que dans le légalisme religieux, on renonce souvent aux choses en grimaçant. Alors pas devant les frères et sœurs, parce qu'il ne faut pas le faire, mais au fond de nous, on est coincé, et du coup, on lâche les choses un peu dans la contrainte, par obligation, alors que dans l'Évangile, on lâche tout ce qui nous retient, parce que nos bras sont trop remplis, pleins de joie, de la joie du Christ, de ce que nous avons découvert. Et le christianisme, du coup, mes frères et sœurs, ce n'est pas une liste de choses que Jésus nous interdit, c'est la joie de connaître le trésor qu'est le Christ. C'est avant tout cela. Imaginez qu'il y a un concessionnaire auto, là, qui vient vous voir, et... allez, je vais prendre un exemple assez radical, bon, il n'y en a pas à Saumur, mais... Un concessionnaire de Ferrari, qui vient vous voir, et qui vous propose une Ferrari neuve d'une valeur, allez, de 200 000 euros, en échange de votre vieux vélo, ou de votre vélo tout court, même s'il n'est pas vieux. Est-ce que vous allez hésiter? Est-ce que vous allez vous dire en pleurant « Oh non, ce vélo, il a tellement de valeur sentimentale, c'est un tel sacrifice, j'ai tellement fait de choses avec ce vélo. » En général, non, vous allez donner votre vélo tout de suite, vous allez me dire « Allez, c'est quand que je le donne ?» pour avoir, du coup, parce que vous allez penser pas au vélo, mais du coup, est-ce que vous avez en échange? Ici, dans cette parabole, c'est la même chose. Dieu nous appelle à découvrir ce trésor qu'il est. Et en découvrant ce trésor qu'il est, nous lâchons naturellement, parce que c'est tellement naturel de découvrir qui est Jésus, et surtout ce qu'il représente de plus important dans cette relation, que nous lâchons. Nous voyons la différence que nous avons avec ce que nous vivons dans nos pensées, nos caractères, et nous lâchons plus facilement. J'ai mis ça et j'ai dit ceci, je sais pas si je l'ai mis... Le christianisme, ce n'est pas une religion de privation mortifiante. Ce n'est pas Dieu nous prive des choses, et là on est obligé de dire « ouais, je ne dois pas faire ça ». C'est un échange glorieux, on abandonne ce qui ne peut pas nous sauver pour saisir ce qui a une valeur éternelle. C'est tout cela, le trésor du Christ. Et le renoncement chrétien, mes frères et sœurs, ce n'est pas une perte, c'est un investissement rempli de joie. Ce matin, je te pose la question... Qu'est-ce qui te retient d'être pleinement engagé avec Dieu aujourd'hui? Est-ce que c'est une rancune que tu refuses de lâcher? Est-ce que c'est un projet personnel où Dieu n'a pas sa place? Ou une recherche à tout prix de sécurité matérielle? Et tu peux dire, Jésus est mon trésor, mais si à côté, la réponse à tous ces éléments concrets elle n'est pas bonne, c'est que ce trésor, tu ne l'as pas vraiment découvert. Ce qui est beau dans la vie chrétienne, moi c'est peut-être, alors ouais, c'est mon avis personnel, hein, là, je vous donne mon avis. Moi je trouve ce qui est beau dans la vie chrétienne, c'est que Dieu est un Dieu concret. Pas un Dieu théorique, il est concret, il nous attend dans les actes. Si Dieu avait juste dit avec nous « je vous aime », bon c'est intéressant mais ça n'intéresse personne. Non, il est venu, il s'est incarné et il a donné sa vie. Ça c'est l'amour de Dieu. Et il attend en retour de nous un engagement concret qui doit se voir, qui se voit. Quelqu'un qui découvre un trésor, en général, il ne peut pas le cacher. On voit dans sa vie quelque chose de différent. Et on arrive du coup au dernier point. Le royaume de Dieu appelle à une décision totale. Il y a un mot commun qui traverse les deux paraboles, c'est le mot « tout ». Il va vendre tout ce qu'il a, et plus loin, il est allé vendre tout ce qu'il avait. Ni l'agriculteur, ni le marchand ne tentent de négocier une demi-mesure. Ils ne vendent pas la moitié de leurs biens pour garder une roue de secours au cas où. Le royaume des cieux, mes frères et sœurs, exige un engagement total, sans réserve. On ne peut pas être disciple de Jésus à 50% ou à 80% ou juste 2 heures le dimanche matin. Ça, c'est pas être un disciple de Jésus, ça. C'est pas être quelqu'un qui a découvert un trésor. On peut être quelqu'un qui dit avoir découvert un trésor sans forcément, du coup, avoir vraiment découvert ce trésor. Ça, il y en a plein, hein. Et même peut-être parmi nous ce matin. Jésus attend de nous la première place. Et c'est facile si nous avons découvert ce trésor qu'il est. Jésus ne veut pas être ce supplément d'âme pour le dimanche matin, il veut être le Seigneur de toute notre vie, de toute notre semaine. Un exemple, peut-être c'est un exemple même assez particulier et même frappant, c'est l'exemple de Moïse. Moïse, on est dans l'Ancien Testament, il était prince d'Égypte, nation la plus riche et la plus puissante de l'époque. Quand Moïse est présent, c'est au temps des constructions des pyramides, hein. Et lui, il est assis, il avait devant lui toutes les richesses de l'Égypte, la puissance, le prestige, le nom qu'il fallait, la sécurité. Mais dans Hébreux chapitre 11, il est dit un verset assez particulier quand même. Moïse considérait l'humiliation attachée au Messie, au Christ, comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. Un homme qui n'a pas connu le Christ, hein, avait assez de foi parce qu'il avait déjà découvert le trésor qui était Dieu. Et du coup, Moïse, alors même si du coup il y a beaucoup de choses qui fait qu'il n'a pas eu été prince, il n'a pas regretté la position qu'il avait, être berger dans le désert pendant 40 ans, avant de paître le troupeau d'Israël, parce qu'il a découvert un trésor. Et Moïse, ici, Dieu va bien lui rendre. Moïse a une relation d'ami. C'est ce que la parole de Dieu nous dit, quand Moïse parle à Dieu, c'est comme à un ami. Il parle, Dieu lui répond. C'est le trésor que Moïse a découvert. Moïse ne choisit pas la souffrance parce qu'il est masochiste, il choisit Dieu parce qu'il avait compris que le prestige du Pharaon ne pouvait pas rivaliser avec la générosité éternelle, avec la gloire éternelle. Et du coup, il avait changé d'échelle de valeur. Alors attention. Ce renoncement, ce n'est pas un moyen de payer son salut. Le salut est entièrement gratuit. C'est pas ici ce que veut dire cette parabole. En réalité, avant que Jésus nous demande quoi que ce soit, c'est Jésus qui a tout donné pour nous. Il s'est dépouillé de sa gloire céleste, a porté nos péchés à la croix pour nous donner le plus grand des trésors, la réconciliation avec Dieu et la vie éternelle. Et notre renoncement, mes frères et sœurs, ce n'est pas un paiement pour notre bonne conduite, c'est notre réponse d'amour à sa grâce. Une chose que j'aime bien dans cette parabole, c'est que les deux hommes que l'on voit, ils ont une chose en commun. À la fin du récit, ils agissent. L'homme du champ va vendre tout ce qu'il a, le marchand il va aussi vendre tout ce qu'il possédait. Et il y a un moment, mes frères et sœurs, la contemplation du trésor qu'est le Christ doit se transformer en décision. On ne peut pas juste regarder le trésor qu'on a dans un champ et ne rien faire. Dieu attend une position. Dieu attend une réaction. On ne peut pas simplement dire « Quelle belle perle qu'est Jésus, quel beau trésor est Jésus » et rentrer chez soi, là, ce matin, sans rien changer à sa vie. Alors si vous pouvez, hein. Mais dans ce cas-là, on ne peut pas dire que vous avez découvert ce trésor. Je nous pose une question ce matin, est-ce que vous avez déjà pris cette décision ? Comme dans cette parabole claire, du coup, d'acheter ce champ. Parce que vous avez découvert, du coup, cette relation, ce trésor avec Jésus. Ou est-ce que vous êtes encore en train d'hésiter sur le bord du chemin à négocier les prix avec Dieu ? Seigneur, je veux bien ce trésor, mais voilà, je veux garder quand même ça dans ma vie. Il y a des choses où je ne peux pas changer, c'est comme ça. Et là, du coup, on n'a pas pleinement réalisé qui est le trésor, qui est le Christ. Aujourd'hui, voilà, on arrive bientôt à la fin de l'été, fin de la, en tout cas des vacances scolaires, et alors qu'on approche de la rentrée, je pense qu'il y a des décisions concrètes qu'il faut prendre. Peut-être ce matin, si tu ne connais pas Jésus, arrête de chercher du sens dans des choses qui ne te satisfont pas, et saisis la grâce qu'il t'offre gratuitement aujourd'hui. Et si tu es chrétien depuis longtemps, peut-être que tu as laissé la poussière de l'habitude recouvrir l'éclat du trésor. Et que quand on te voit, on ne voit pas un trésor. On se dit, lui, c'est son trésor qu'il a découvert, et c'est un peu relou quand même. J'aime pas ce qu'il a découvert. Et du coup, peut-être qu'il est temps de renouveler ton engagement, de remettre Jésus au centre absolu de tes priorités. Peut-être que c'est plus difficile d'ailleurs pour nous qui sommes chrétiens depuis longtemps. Parce qu'on peut dire, on peut penser bien et ne rien vivre. Dans le trésor ici qu'est Jésus. Nous devons, mes frères et sœurs, si nous avons perdu ce cap, crier à Dieu. Demander au Seigneur, « Seigneur, le trésor que tu es, je veux le redécouvrir. Viens te révéler à moi pour que je puisse finalement changer mes priorités. » Voilà, pour conclure, je voudrais terminer par une petite histoire. C'est un homme qui possède une vieille montre, voilà, c'est une histoire que j'ai lue là, et je pense qu'il colle bien avec ces deux paraboles, et c'est un homme voilà, qui possède une vieille montre familiale, et elle n'est pas particulièrement belle cette montre. Elle est usée, elle est rayée, et elle fonctionne même plus très bien. C'est un peu embêtant pour une montre, hein, vous allez me dire. Et du coup, il va la porter chez un horloger, l'horloger va la regarder, il reste silencieux, et il va lui demander « Où est-ce que vous avez trouvé cette montre ?» Et l'homme va répondre « C'est celle de ma grand-mère. Pourquoi ?» Et l'horloger lui répond « Parce que ce n'est pas une montre ordinaire, elle est extrêmement rare, et elle vaut plusieurs centaines de milliers d'euros. » Et l'homme, il va repartir avec sa montre, changée. Je vous pose la question, qu'est-ce qui a changé ? C'est la connaissance de ce qu'il possédait. Parce que la montre, il n'a pas voulu la réparer. Hein. Il est reparti tel quel. Rien n'a changé. C'est pas la montre qui a changé. Elle était déjà précieuse. Quand il l'a ramenée, c'est juste qu'il ne le savait pas. Ce qui a changé, c'est la manière dont il l'a regardée. Comme tu dis, Didier. C'est la perception, finalement, qu'il a des choses. Avant, il voyait un vieil objet usé, maintenant il sait qu'il porte un trésor. Et c'est exactement ce que Jésus veut faire avec nous ce matin et ce qu'il dit dans cette parabole. Le royaume de Dieu n'a pas pris de valeur ce matin. Christ n'est pas devenu plus précieux aujourd'hui. C'est notre regard sur lui qui doit s'ouvrir pour réaliser le trésor que nous avons déjà entre les mains. Ce trésor que Jésus veut constamment, que quelque part nous avons en tête. C'est tellement important, mes frères et sœurs, que Jésus en a fait deux paraboles hein, quand même. Il aurait pu juste faire une phrase comme ça, mais il va parler en parabole pour montrer l'importance de garder la valeur de ce trésor. Parce que c'est ça qui nous permet d'avancer dans la vie chrétienne, en ayant Christ en valeur absolue. Si nous avons ça, mes frères et sœurs, nous ne craignons rien ici-bas. Parce que nous avons Dieu, un vivant qui agit, nous avons un Dieu vivant qui donne la paix, nous avons une confiance absolue en ce Dieu qui nous aime. J'ai mis trois questions ce matin, que vous puissiez peut-être répondre chacun dans votre cœur. Première question, quelle valeur a Jésus pour moi ? Aujourd'hui, dimanche 16 août 2026. Pas il y a 10 ans, hein, pas il y a 20 ans, quand j'ai donné. Aujourd'hui, quelle valeur a Jésus pour moi ? Dit autrement, si quelqu'un observait ma vie, ou mon voisin, allez, mon conjoint, des fois c'est facile. Alors, il peut être un peu faux, s'il vous aime bien, il vous dira peut-être pas la vérité, il ne veut pas peut-être avoir des conflits avec vous. Demandez à quelqu'un qui vous dit la vérité. Si quelqu'un vous observait pendant une semaine, est-ce qu'il verrait que Jésus est mon trésor ou est-ce qu'il verrait que mon trésor est ailleurs ? Est-ce que finalement, il y a une dissonance entre ce que je dis et ce que je vis? Deuxième question, est-ce qu'il y a quelque chose que je refuse de remettre à Jésus? C'est un peu la phrase que nous pouvons dire, Seigneur, tout sauf ça. Ça, je ne peux pas changer, et on va trouver plein d'arguments. C'est trop difficile, t'as vu ce que j'ai vécu, ou je suis trop âgé, quand on est trop vieux, on n'arrive pas à changer, apparemment, bon, bibliquement, ça ne tient pas ça, hein. Ou je suis trop jeune, parce que ça peut être aussi l'inverse. Non, il n'y a pas de critère à ça. Celui qui découvre le trésor, il change radicalement tout. Un exemple par rapport à ça, mes frères et sœurs, c'est bien parce que j'ai des enfants là. Les enfants, c'est pas compliqué. Hein. Plus jeune, Johan, il jouait avec un vieux jouet, je ne sais pas pourquoi, il aimait un vieux jouet qui était tout cassé là, et qu'on voulait jeter d'ailleurs, mais il était attaché à ça. Hein. Bon, bah, voilà, on lui a laissé. Et dès qu'on lui a enlevé, il pleurait. Pour changer la chose, c'est ce qu'on a fait. On n'a pas dit, non, on va le jeter, ça ne va pas. Non, on lui a donné autre chose. De beaucoup plus précieux à ses yeux. Et tout, il a pas réfléchi, il n'a pas dit, oh, je vais garder les deux. Il a lâché, lui-même, il est allé jeter à la poubelle l'autre truc. C'est ce que Dieu attend de nous. Des fois, nous sommes attachés à des pâtés de boue, comme disait C.S. Lewis, alors que nous avons un trésor en face de nous. Et troisième question, est-ce que cette découverte de ce trésor produit de la joie dans ma vie? Parce que le Christ produit de la joie. Alors attention, quand je dis de la joie, c'est dans la durée. Hein. Il peut y avoir des moments pour le chrétien, et c'est complètement normal, où la joie est absente. Parce qu'il y a des moments de deuil, de tristesse, d'épreuve. Et ça, c'est normal. Hein. Je ne parle pas de cela. Je parle d'une joie ici profonde, que rien ne peut enlever. Parce que parfois, nous sommes chrétiens depuis longtemps, nous connaissons la doctrine, nous connaissons les chants, nous connaissons les histoires bibliques, nous connaissons le déroulé du culte, par cœur des fois même. Mais est-ce que nous avons encore cette joie de celui qui a trouvé un trésor? De celui qui a trouvé une perle? Frères et sœurs, lorsque nous avons Jésus-Christ, nous avons tout. La vie éternelle, la paix, l'amour inconditionnel, et l'espérance de la gloire à venir. Ne passons pas à côté de la seule chose qui a une valeur éternelle, ne laissons pas les soucis de ce monde ou les faux trésors de ce monde nous distraire. Quand nous comprenons réellement qui est Jésus, notre cœur peut enfin dire « Seigneur, si je dois perdre quelque chose pour te suivre, tu en vaux la peine. Si je dois renoncer à mon confort, tu en vaux la peine. » Si je dois abandonner mes rancunes ou mes fausses sécurités, tu en vaux la peine. Si je dois te donner mon temps, mon argent, peut-être que là on a plus de mal, hein, mes projets, mon avenir, toute ma vie, tu en vaux la peine. Parce que tu es le trésor absolu de ma vie. Et tout ce que je fais, je veux le faire avec toi. Parce que Jésus, tu es le trésor qui vaut toute une vie. Amen. Courbons nos têtes, mes frères et sœurs, et prions. Merci encore, mon Dieu, pour ta parole ce matin et pour cette belle parabole. Parabole, mon Dieu, simple, et que quelquefois nous lisons en pensant, Jésus, que finalement nous avons tout compris de toi, et quelquefois, mon Dieu, voilà, nous avons oublié quel trésor tu es. Un trésor inestimable, une perle précieuse. Qui nous oblige, mon Dieu, mais avec joie, à changer tout. Dans notre caractère, nos comportements, nos manières de penser, nos rapports aux autres, nos rapports à nos biens. Parce que tu es ce trésor inestimable. Merci Saint-Esprit, parce que tu es ce trésor aussi que tu nous as donné, qui nous permet de nous approcher de Jésus, de découvrir encore notre Sauveur. Et mon Dieu, je te prie, ce matin, viens encore nous remplir de ton esprit. Pour que nous puissions, Jésus, ne pas être durs, des chrétiens secs qui connaissions des choses, mais qui ne vivons plus rien. Que nous puissions ne pas être des personnes qui savons le trésor de manière intellectuelle, mais qui ne vivons pas ce trésor, qui ne vivons pas la joie de découvrir cette perle. Seigneur, viens nous aider ce matin. Tu sais combien nos cœurs sont durs. Tu sais combien nos cœurs, mon Dieu, sont tortueux. Et ce matin, je te prie de nous donner des cœurs simples, des cœurs d'enfants. Viens nous rappeler encore la valeur que tu as pour que nous puissions, Jésus, ne pas nous contenter de nos pâtés de boue, mais voir encore l'océan de ta grâce et les merveilles, mon Dieu, qui vont avec, les yeux fixés sur toi, Jésus, qui est l'auteur de notre foi. Ô Père, viens nous faire grâce ce matin. Je te prie pour chacune des personnes ici présentes. Pour ceux peut-être qui ne te connaissent pas, Jésus, ou qui peut-être ont entendu parler de toi, ou qui vivent peut-être juste un côté religieux chrétien, que tu puisses encore, Jésus, te découvrir à eux. Toi, le trésor que tu es, viens encore te révéler dans le rôle, dans la relation, Jésus, que tu attends avec nous. Fais quelque chose. Est possible pour nous, peut-être, mon Dieu, qui te connaissons, mon Dieu, viens encore garder nos cœurs. Nos cœurs de la sécheresse, de la dureté, viens nous donner encore ce regard. Ce regard, mon Dieu, où nous savons que nous ne méritons rien. Et que toi, pourtant, tu nous fais héritier, co-héritier avec toi. Héritier de ta grâce, de l'espérance éternelle à venir. Jésus, face à ce monde qui se perd, que nous puissions être ces lumières, bien visibles, bien concrètes, où quand on voit que nous avons quelque chose de différent. Viens nous aider, Jésus. Amen.